Les nuits de France Culture. Avec sa 10e partie, se terminait Clé pour un théâtre musée, la série de Daniel Lecomte consacrée à Dali que diffusait France Culture en 1978. Si Dali ne devait mourir que 11 ans plus tard, sa santé était déjà alors déclinante, il allait bientôt s'engager dans les années durant lesquelles il devait perdre toutes ses capacités artistiques. Comment abordait-il les dernières années de sa vie? Quel sens avait pour lui à ce moment le mot vieillesse? Attendait-il, espérait-il encore la foi qu'il avait toujours fui? Tel était le terrain sur lequel Dali était interrogé dans l'émission que nous allons entendre. Alors que le critique Robert Lebel et les peintres Liouba et Jacques Hérold anticipaient ce que serait la place de Dali dans l'histoire de l'art de son siècle, son proche collaborateur, Robert Descharnes, soulignait lui le doute angoissé de Dali sur la pérennité de son œuvre qu'il masquait derrière ses rodomontades. Une dernière émission qui baignait dans le clair-obscur crépusculaire de l'Angélus de Millet et des tableaux de Dali. Nuit magnétique, clé pour un théâtre musée, 10e et dernier épisode, Ombre de la nuit descendante, première diffusion le 17 novembre 1978 sur France Culture.
Bien qu'il ait affirmé sa volonté de transformer continuellement son théâtre-musée et d'y organiser des spectacles renouvelés en permanence, Salvador Dali n'ignore pas que cette année, il a 74 ans. Deux interventions chirurgicales récentes lui ont rappelé que la mort, avec laquelle il a joué toute sa vie, lui proposerait bientôt un dernier rendez-vous que rien, pas même les montres molles, ne pourrait éluder. Docteur E.
Les montres molles, c'est une certaine symbolique de la plasticité du temps, c'est-à-dire du contraire du temps. Parce que ce qui est vraiment contraire à moins de plasticité, c'est justement la marche inexorable du temps. C'est au fond une sorte d'interprétation du temps ou de l'ordre du cosmique dans le sens d'une plus grande contingence des choses et par conséquent d'une plus grande liberté prise à l'égard de la matière. C'est au fond une vie spiritualiste du temps que de lui ôter sa rigidité ou son irréversibilité pour lui concéder la plasticité. Au fond, c'est un homme qui a une grande pensée, une grande profondeur de pensée métaphysique.
L'heure du jour que Dali préfère est celle du crépuscule. La majorité de ses tableaux sont éclairés, comme l'Angélus de Millet, par cette lumière rasante qui précède la disparition du soleil.
C'est au fond, en effet, un poète et un peintre des états de transition ou d'osmose, si vous voulez, entre le réel et l'imaginaire, entre la nuit et le jour. Il est là, dans cette espèce de clair-obscur, qui est en effet l'atmosphère métaphysique de son œuvre. Il a lui-même découvert ça.
Vous savez qu'il insiste beaucoup sur les images hypnagogiques.
Les images hypnagogiques, bien sûr. Mais ça, c'est la référence habituelle à tout ce qui est délire, hallucination, etc., de ces formes d'esthétisme.
Mais en tout cas, l'instant crépusculaire vous paraît fondamental.
Ah oui, je crois que c'est une des toniques de sa pensée, de son œuvre.
Mais au crépuscule de sa vie, quel sens Salvador Dali pense-t-il avoir réussi à donner à ce phénomène que beaucoup considèrent comme la montée de la décrépitude, le vieillissement?
C'est quand plus d'informations, plus de lutte contre l'entropie. Et l'entropie, c'est mon ennemi. Et de même que la deuxième loi de la thermodynamique de Clausius prouve que dans le macrocosmos, le vieillissement et la mort sont absolument certains. Par contre, dans le microcosmos, chaque jour nous apprenons des tendances contre la deuxième loi de la thermodynamique. Le microcosmos, c'est ma passion maintenant.
Dès votre jeunesse, vous avez été très frappé par ces problèmes de vieillissement et même plus que ça, de pourrissement.
Exactement.
Et pour s'opposer à cette dissolution du corps, à cette ruine du temps, pour éviter de tomber dans l'oubli où disparaissent post-mortem tant d'artistes vedettes de leur époque, Salvador Dali s'est employé de son vivant à créer sa légende. C'est ainsi qu'il a métamorphosé par la peinture et l'écriture l'endroit où il habite, Port Ligat, près du Cap Creus, en un lieu privilégié, digne des dieux, une sorte de mini-Olympe, et a transmué Gala et Dali en des êtres mythologiques. Henri-François Rey.
Il n'est pas parvenu ni à faire de Gala ni du Cap-Cresse. Il a réussi à se créer une mythologie personnelle. Ce qu'il a mythifié, c'est lui. Ça, il y a réussi d'une façon absolument extraordinaire. Mais le Cap-Cresse n'a servi que de support à sa mythification ou à sa mythologie personnelle. Et Gala n'est jamais que son médium. Mais ça a été un médium d'une efficacité absolument remarquable. Mais ce n'est pas un mythe. La seule chose qui est réussie dans sa vie et dans son œuvre d'Ali, c'est de se mythifier lui-même. Et ça, c'est super bien fait.
C'est en ce sens, si vous voulez, que le modèle de la paranoïa s'impose de nouveau sous la forme de l'ouverture à la mégalomanie. C'est-à-dire, ce n'est pas évidemment par les éléments biographiques qu'il a publiés lui-même dans sa fameuse vie secrète qu'on peut le savoir, mais si on, de ce qu'on peut en connaître par les oui-dire ou par les exploits qu'il a réalisés, on peut dire qu'en effet, toute sa vie est en effet un peu sur le modèle de la paranoïa qui a été une vie de traqué, de combat longtemps, et puis maintenant de triomphalisme, n'est-ce pas, métaphysique, qui éclate maintenant dans les thèmes de la religion, de la politique aussi.
Pourtant, la déclaration de Dali, souhaitant que Franco fusille plus d'opposants politiques, avait soulevé à l'époque la réprobation générale. Le docteur E y trouve une explication.
Il s'est divinisé, n'est-ce pas, à cet égard. Il a pris vraiment le parti et la figure de la toute-puissance. C'est comme ça que j'interprète sa position, qui est, je veux dire, grandiose. Nous sommes en effet dans une espèce de phase qu'on pourrait appeler, en forçant un peu les choses, parce que je ne crois pas beaucoup à ces analogies qui me paraissent souvent superficielles, en forçant un peu les choses qu'on pourrait appeler en effet une espèce de phase terminale ou d'éclatement terminal et mégalomaniaque de la paranoïa.
Mais pour être plus sûr de son immortalité dioscurale, Salvador Dali s'est acheté le droit de se faire hiberner.
Oui, et à un moment donné, il est venu ici, tout près d'ici, inséré dans des cérémonies qui ont été pleines de charme, je dois dire, et de fantaisie, pour se faire hiberner, puis finalement, la technique n'étant pas très au point, inséré, naturellement, le laborie se trouvait un peu trop loin, ça s'est terminé, comme se terminera probablement son projet d'hibernation, c'est-à-dire dans une espèce de crépuscule grandiose de ces fantasmagories qui toutes en effet prennent un grand essor puis éclatent, elles éclatent un peu comme des fusées que vous savez dans les feux d'artifice. C'est un peu ça. Dali, c'est un feu d'artifice.
Pour Robert Descharnes, ce désir d'hibernation est le signe révélateur d'une immense angoisse.
Moi je considère que c'est une attitude très inquiète. C'est probablement une inquiétude en face de la possibilité de durée de son message, ou de son travail, de son œuvre. Quand on parle avec Dali, il est certain qu'il semble être ne pas mettre en doute la possibilité d'être classé dans l'histoire, tout au moins dans l'histoire de l'art. Mais quand on analyse ses gestes en général, ses actions, on a l'impression qu'il doute beaucoup plus. Parce qu'il fait des efforts vis-à-vis de son entourage pour justifier ses actions. Je ne parle pas d'actions dans le quotidien, mais d'actions dans le domaine de l'esthétique, de la création, qui n'ont plus à être justifiées, qui sont déjà pour beaucoup, particulièrement pour les jeunes générations, complètement classées. Bien sûr, Dali a dit, si je place 5 dollars sur ma tête et que je reviens au bout de tant d'années, je serai riche, etc. Mais ça, c'est le propos du catalan phénicien. Oui. C'est une façade.
C'est ça. Et vous pensez qu'en réalité, ce qu'il meut, c'est le désir, une dernière fois, de voir ce qu'il sera dans l'histoire ?
Son œuvre, en tous les cas.
À ce propos, il est intéressant de connaître les jugements que ses contemporains portent déjà sur elle. Jacques Herold, qui participa avec Dali au mouvement surréaliste.
Il aurait pu être, avec ce qu'il a fait, plus grand. Le peintre n'est pas fait pour jouer des jeux exhibitionnistes. On exhibe ce qu'on fait, mais pas ce qu'on est, sa personne.
Oui, c'est-à-dire que vous pensez que son, disons, goût du pouvoir, son besoin de dominer la foule dans l'immédiat, ça, au fond, désamorcé sa peinture.
À mon sens, oui, parce que c'est un grand peintre. C'est un grand peintre et on ne peut pas nier. Donc, s'il n'est pas considéré comme le grand peintre qui réellement est Dali, surtout pendant un long moment, je regrette pour lui parce que il aurait dû être presque aussi grand que Max Ernst.
Bon, il a eu des périodes meilleures que d'autres, comme tous les peintres. Il y a eu cette période fabuleuse entre 28 et 40, qui est une période incroyable, qui est d'invention, d'imagination, de bris de glace et de clôture. Bon, comme Max Ernst, donc il survivra à ce titre. Et je crois même qu'il dépassera cette idée de peintre représentant une école pour être un peintre qui s'appelle Salvador Dali et qui a, pendant 73 ans, et j'espère beaucoup plus pour lui parce que je l'aime beaucoup, a été un personnage surréaliste, un peintre surréaliste, défendant une éthique surréaliste, car il y a une façon de vivre surréaliste, et c'est le seul qui l'est défendu.
C'est ça.
Bien ou mal, mais en général plutôt bien.
La peinture qu'il fit après 1940 attire en général à Dali une hostilité qu'exprime ici Robert Lebel.
Depuis 1940, la peinture de Dali est restée justement figée, n'est-ce pas ? Il y a son grand Christ qui est au Metropolitan Museum, qui est quand même un honneur extraordinaire pour un artiste vivant, n'est-ce pas ? Et surtout pour un immense tableau qui prend tout un mur. Il y a eu une seule évolution dans la peinture de Dali, c'est sa période surréaliste, où il est en somme, si vous voulez, sorti de lui-même, où il est arrivé à force de volonté et de délire de créer une peinture surréaliste sur base d'académisme. Et ensuite, il est retombé dans l'académisme et puis il n'en est jamais sorti.
Pourtant, le peintre Liuba, d'une génération plus jeune, pense qu'au contraire, la période d'après 1940 est supérieure à toutes les autres.
Il s'attribue des notes. Et quand il juge sa période surréaliste, il met 8 sur 20. Mais la période actuelle, il met 14 sur 20. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette cotation ?
Je crois qu'il a raison. Il a raison, sauf que, bien sûr que on peut aussi critiquer ces grands tableaux, parce qu'ils sont un peu glaciaux. Ils sont un peu photogéniques, c'est-à-dire faire après une photo. Mais ce n'est pas la photo comme on utilise l'hyperréaliste. C'est quelque chose de photogénique, disons, avec le fantasme de Salvador Dali. Et dans un certain sens, pour moi-même, ce sont des tableaux très importants parce que, comme une fois, comme dit Dali, qu'il est né pour sauver la peinture moderne. Bien sûr, dans une déclaration pareille, ça peut être un peu gonflé, mais moi, je prends ça au sérieux. Je considère, si vous voulez, aller au Louvre, voir un maître, un besoin seulement, voir le... c'est-à-dire sentir plutôt l'accumulation d'une énergie qu'il a mis à un maître en faisant un tableau. Et c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est cette accumulation. Accumulation vraiment d'une force humaine devant le blanc.
Et ça, vous retrouvez cette force accumulée dans les tableaux de Dali ?
Oui, il y a un grand effort, un effort plutôt qui nous obsède complètement, c'est-à-dire un effort magique. Si vous voulez, je peux faire une petite comparaison qui existe entre, disons, Picasso et Dali. Je crois que la différence est énorme parce que le Picasso, il a mis la peinture dans un cul-de-sac. C'est-à-dire, après Picasso, on ne peut pas continuer. C'est-à-dire, il a vraiment mis la peinture dans un état de merde que chaque personne, si veut essayer quelque chose après Picasso, il devient ou bien un petit mauvais Picasso ou rien du tout. Le cas de Dali, c'est complètement au contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer dans le sens dalien. Mais je crois qu'il a donné un espoir. C'est-à-dire, il a mis une ouverture. C'est-à-dire, il a touché notre imagination. Il a touché un autre siècle, si vous voulez. Il a mis les êtres humains dans une position en expliquant que tout est possible, qu'il se sert de photos. Bon, c'est bien parce que le photo, c'est notre époque, mais il nous indique aussi la possibilité, si vous voulez, faire quelque chose hors de nos possibilités humaines. Et pour ça, je crois qu'il y a cette différence. Pour moi, c'est très important, parce que Picasso, si vous voulez, il a enterré la peinture, et Dalí, il lui donnait la chance.
Moi, je crois, d'abord, que la peinture de l'avenue, elle se trouve quelque part entre Dalí et Francis Bacon. Pour ça, le problème Dalí m'intéresse beaucoup.
Mais qui, aujourd'hui, prend Dalí pour guide? Il ne semble avoir ni élève, ni suiveur.
C'est le contraire. Il n'y a pas un seul jour que je ne reçois pas 10 transplants de ceux que je ne regarde jamais, parce qu'il faut les regarder à travers, qui ne soient pas vraiment du Dalí, beaucoup plus Dalí que moi. Des béquilles, des montres, des yeux qui flottent, des espèces de fœtus informes avec des têtes monstrueuses, avec tout ce qu'il y a de plus banal et extérieur dans mes tableaux. Ça, il y a des centaines de milliers aujourd'hui déjà qui le pratiquent.
C'est ça. Vous avez donc créé un courant, mais vous n'avez pas forcément...
Un courant très mauvais.
Bon, mais vous n'avez pas forcément fondé une école.
Ah non, 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 ça non.
Et c'est une chose qui vous paraît manquer au monde ou pas?
Ah non, pas du tout. Je crois qu'il y a des gens qui se débrouillent tout seuls, sans moi, très bien. Moi, j'étais leur prophète, uniquement. C'est les uniques peintres intéressants aujourd'hui, c'est les hyperréalistes américains qui font, au pied de la lettre, ma définition de la peinture, que c'est la copie à la main des images concrètes, des photos.
Une
copie de photos. Alors, évidemment, les gens ils disent, mais quelle nécessité il y a de copier une photo, puisque la photo existe. Alors, Malebranche répond, ce que nous voyons, ce n'est pas dans les choses, c'est dans notre âme. Ça veut dire que si Velázquez copie une photographie, ça lui sort du Velázquez. Si Vermeer copie une photographie, ça lui sort un Vermeer. Si moi je copie une photographie, ça sort un Dalí.
On voit par là ce qui distingue obligatoirement Dalí de ses confrères. Mais c'est son talent et son intelligence qui lui assurent sa suprématie. Du moins le pense-t-il, et c'est pourquoi sans doute, il a abandonné un à un tous ses anciens amis. Miró, par exemple, catalan comme lui, qui l'a pourtant introduit auprès du groupe surréaliste et dont il ne parle jamais.
Très rarement, parce que je considère que c'est plutôt du folklore.
C'est un de vos voisins, quand même.
Oui, oui, mais je dis que c'est très folklorique ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est l'art paysan, c'est un paysan, il est très doué, et ça fait beaucoup d'effet parce qu'il est catalan. Mais s'il serait finlandais, on ne le regarderait même pas. C'est la force de la terre qui prime dans son œuvre.
Avec son compatriote Picasso, les relations ont vite dégénéré aussi. Elles avaient pourtant commencé par une ode.
Le phénomène biologique et dynastique que constitue le cubisme de Picasso a été le premier grand cannibalisme dépassant les ambitions expérimentales de la physique mathématique moderne.
Est-ce que vous pensez que Picasso a été, comme il le prétend, son deuxième père?
Spirituellement, c'est possible, n'est-ce pas? Quand Dalí, le petit jeune homme bien poli, est venu le trouver à Paris en lui disant « Voilà, je suis grand prix de l'Académie de Madrid », il lui a apporté quelques dessins qui étaient d'une perfection graphique extrême. Dalí, tel qu'il est, il a dû faire une cour effrénée à Picasso, n'est-ce pas, se prosterner devant lui, comme il l'a fait plus tard devant Breton, Picasso a dû dire, oui, bon, jeune homme, et bien sûr, venez à Paris, je vous aiderai, etc. C'est possible. Pour Picasso, ça a été une visite comme il en recevait des milliers, n'est-ce pas? Pour Dalí, ça a été une révélation, il est après, c'est mon père.
À ce sujet, j'avais déjà dit plusieurs fois qu'à l'époque surréaliste, j'avais collaboré avec Picasso.
Oui, dans une série de gravures.
Exact.
Et personne... Et enfin, moi, je ne les connais pas, ces gravures.
Alors, on les a trouvées. On, a trouvé. On ah en bon? A trouvé une. Alors ça, je ne peux pas dire comment et tout, c'est confidentiel, mais on a trouvé une gravure que c'est moitié fait par lui, moitié fait par moi. Et lui, jamais, il avait voulu collaborer avec qui que ce soit. Donc c'est un très grand honneur. Et en tout cas, je vous donne une unique, très grande nouvelle. On a trouvé une gravure qu'on se l'a passée. Chaque semaine, il disait « ajoutez quelque chose ». Donc moi, je voyais qu'il y avait une chaise ou une épaule ou n'importe quoi. Et j'y mettais des œufs sur le plat, sans le plat. Je lui redonnais. Lui, il mettait une tige, une fleur dans l'œuf. Après, il me redonnait. C'est-à-dire que c'était un véritable dialogue entre Picasso et moi.
Oui, c'était une autre démarche que le cadavre exquis, par exemple, parce que là, c'était conscient, visible.
Exact, c'était tout à fait visible. C'était le contraire.
Alors, c'est intéressant d'en avoir retrouvé une, parce que jusqu'à présent, c'était une énigme.
C'est ça. Personne ne me croyait, en plus. Oui. Je croyais que c'était une fantaisie. Comme ce que vous disiez, Dali, il a l'air pas aussi bête de ce qu'on croyait. Alors,
c'est pas moi qui
avec, on vous l'avait dit. Oui, vous l'avait dit.
Toutefois, quand dans le fameux classement de vos peintres, par exemple, Picasso, au point de vue technique, vous lui donnez 9 sur 20.
Oui, parce que lui-même, il reconnaissait que ce qui l'intéressait, c'est de s'aimer des idées, de jeter des idées, et pas de réaliser les choses.
Et alors,
à tel point de vue, il dit, ça, c'est tout ça, c'est comme des chèques sans provision. Il dit, voilà, en me montrant le cul du cheval de Guernica, un jour il m'a dit, là, il faudrait quelqu'un comme vous, un peintre qu'on sent, que soit tellement réaliste, qu'on sent l'odeur de la sueur du cheval. Mais ça, on le fera un jour, si on veut. Moi, j'ai fait ça à ma façon, juste pour laisser l'espèce d'empreinte de ma pensée, c'est tout.
Donc c'était un semeur d'idées avant tout.
Exactement.
Bien. Mais alors,
un démolisseur d'idées et un semeur d'idées, les deux.
Les deux.
Même. Mais les alors, deux pour le même prix.
Tout a été dit sur Dali et ne sera jamais mieux dit.
Docteur Runger.
Et on n'en dira rien de plus que ce qu'il a déjà dit. Seulement voilà, il faut le découvrir.
Oui.
Car Dali a dit. Picasso, vous connaissez cette fameuse phrase, mais il faut toujours la répéter, on en revient toujours là. Picasso est un génie, moi aussi. Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est communiste, moi non plus. Bon, voyez-vous, présence-absence. Fou, pas fou.
La dialectique dalinienne, présence-absence, est encore plus évidente vis-à-vis de ses problèmes religieux.
Dali a toujours été religieux et ne l'a jamais été. Toujours présence-absence. Voyez-vous, on retombe de l'être et le néant. Il n'a eu aucune conversion, il affirme toujours, avec regret et en fin de course, mais je n'ai pas la foi, je l'attends. Mais le chemin vers Dieu, je prétends qu'il l'a depuis l'enfance, lorsqu'il était attiré vers le haut, et là, il y a des pages splendides où il décrit sa véritable jouissance et son aspiration vers le haut. Dans sa baignoire, de cette mansarde. Tout. Puis après, il y a eu le haut de la tour, les pensées homicides, bon, là, la tour. Et maintenant, ça a été l'ascension mystique vers Dieu, lorsque, ayant pris conscience de lui dans sa personne, dans son être, dans son temps, eh bien, il s'est identifié au Christ, et maintenant, dans cette œuvre de la Galerie Petit, eh bien, il vit l'ascension vers Dieu.
Il s'agit du tableau intitulé « La gare de Perpignan », où, au-dessus du couple fameux de l'Angélus, Dali bondit vers un ciel de lumière.
Est-ce que Dieu existe pour vous?
Comme que je suis né d'une famille athée, alors mon père était athée, et les femmes, ça, ma mère non. Alors comme que mon père était très intelligent, je me disais toujours, c'est lui qui doit avoir raison. C'est-à-dire que j'avais un mépris pour la religion, et l'Église et toutes ces choses. Et maintenant, c'est le contraire. Tous les jours qui passent, je n'ai pas encore la grâce de la foi, mais chaque jour qui passe, je crois plus à l'immortalité de l'âme et aux dernières paroles de Solinger dans son livre sublime qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est que la vie ?» dans lequel il dit « Jamais, jamais, le temps pourra supprimer et anéantir la pensée de l'homme.
Pour vous, au-delà de la mort, qu'est-ce qu'il y a ?
Alors, le corps glorieux, tel que à peu près le définit d'une façon assez pittoresque le père Malebranche, ou même Leibniz.
Et alors, donc, dans ces conditions, en passant au corps glorieux, vous n'avez pas peur de la mort ?
Ah oui, parce que je n'ai pas encore la foi. Mm-hmm. Donc, j'ai tout résolu, toutes les questions sont résolues, mais celle de la mort, heureusement pas encore, parce que ça vous donne un intérêt extraordinaire à continuer à vivre.
Pour vous, qu'est-ce que c'est l'existence de l'âme ?
L'existence de l'âme, c'est la persistance de la mémoire. C'est pour ça que déjà à l'époque très jeune, j'ai fait le tableau de Montremolle qui s'appelle « La persistance de la mémoire ». Parce que la néganthropie, sa mémoire, personnellement, ça m'intéresserait très très peu.
Mais la mémoire suppose aussi un témoin, un récepteur.
Il suppose un récepteur que c'est soi-même, que c'est l'essentiel.
Ou l'autre.
Exact.
Hein, c'est bien ça, oui. Ça suppose ça. Et pourquoi la foi est-elle indispensable ?
La foi est un élément, est une grâce de Dieu. Et on ne peut pas y arriver par le raisonnement.
Mais alors, cette grâce de Dieu, pourquoi n'est-elle pas répartie équitablement ? Alors là, vous en arrivez au jansénisme, avec les élus et ceux qui ne le sont pas, définitivement.
Ah non, mais je crois que la chose, ça va s'arranger au dernier moment.
C'était Ombre de la nuit descendante, le 10e et dernier épisode de la série Clé pour un théâtre musée, proposée par Daniel Lecomte. Avec Salvador Dali, Henri Hay, psychiatre, Robert Descharnes, photographe, biographe et collaborateur de Salvador Dali, Robert Lebel, critique, les peintres Jacques Hérold et Liuba, Henri-François Rey, écrivain, et Pierre Roumeguer, psychanalyste de Dali. Lecture Jacques Dufilot, réalisation Jacqueline Archambault, première diffusion sur France Culture le 17 novembre 1978 dans Les Nuits Magnétiques.